Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
La parole de Dieu, si vous voulez bien, nous allons prendre un texte dans le Nouveau Testament. Et puis nous allons évoquer un enseignement du Seigneur. Je crois qu'il reste toujours d'actualité, parce que rien n'a changé. Vous savez, la parole de Dieu, elle demeure. La Bible nous dit qu'elle traverse tous les temps, et elle est vraie pour les hommes d'autrefois, les hommes d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors d'abord, une petite amorce de réflexion, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et ce que nous allons méditer, il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une théologie humaine, c'est Jésus et l'apôtre Paul qui nous enseignent les choses. Et ce qui était vrai en leur temps, en leur génération, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Donc Matthieu chapitre 16, verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà pour la situation première de notre méditation, où il est question, vous l'avez remarqué avec moi, où il est question de levain et de pharisiens. Du levain, on a peut-être une petite idée de ce que cela peut vouloir dire, et puis également de cette caste religieuse très très influente, tant dans le domaine politique que dans le domaine religieux, associée avec une autre catégorie de cette société qui était les sadducéens. Mais il s'agit particulièrement des pharisiens, parce qu'ils avaient quelques caractéristiques que Jésus a relevées, et nous allons voir un peu de quoi il s'agit. D'abord, le levain est une substance qui fait fermenter et lever la pâte du pain, ou certainement peut-être autre chose, mais c'est l'action de faire lever. La Bible en donne deux sens. L'absence de levain, comme nous l'apprenons dans l'Ancien Testament, symbolise la pureté. Nous le savons. Et son contraire, un agent de corruption, emblème du mal, du péché, de tout ce qui peut avoir dans ce sens. Mais, comme Jésus le signale dans Matthieu que nous venons d'ouvrir, des doctrines et des enseignements pernicieux. J'aimerais justement, pour que nous puissions approfondir la signification de tout cela, le vin du latin levare, qui a au moins trois sens, mais qui se regroupent, qui se rejoignent. Promptement, rendre léger, et également déplacer vers le haut, ou si vous voulez, peut-être par extension, gonfler. Voilà la signification du levain. C'est pour ça que quand il est question de lever, levare. Le levain est l'emblème de tout principe, et je parle d'une manière générale, de tout principe énergique, tant en bien qu'en mal, mauvais ou bon, possédant une vertu d'assimilation. C'est-à-dire qu'il pénètre et il va imprégner. Il va se répandre et il va agir donc activement. Le levain dont Jésus nous parle, entendez par là l'enseignement des pharisiens, a été donné pour stigmatiser l'hypocrisie de ces hommes et consiste finalement à déguiser le mal en bien. Quand on regarde un peu la manière dont la Bible nous parle de cette catégorie qui n'était hein, qui avaient pignon sur rue, nous pouvons dire, eh bien c'était cela, c'est-à-dire qu'ils avaient un comportement qui, en apparence, pouvait paraître véritablement des juifs par excellence, des israélites par excellence. Mais nous voyons que Jésus va en parler, les apôtres vont en parler, ils vont dénoncer. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait déjà ce... Hein, parce que les pharisiens sont apparus à une période assez reculée, après l'exil, après le retour de l'exil de Babylone, pour contrer finalement eh bien, toute cette corruption qui existait dans tous les sens. Et en quelque sorte, eh bien, ils avaient pris de l'ascendance sur la nation. Et l'association avec les pharisiens, puisque nous parlions il y a un instant de levain, que Jésus stigmatise d'une manière très très nette, hein, parce qu'il y a des chapitres par rapport à leur comportement, alors nous voyons qu'il va devoir mettre en garde ses disciples de cet enseignement qui va être donné à la nation, et il va leur dire, hein, quand nous lisons par exemple, à la fois dans Matthieu chapitre 23 et puis dans Luc, je ne me souviens plus du chapitre, mais toujours est-il qu'il fera véritablement un réquisitoire, hein, extrêmement vigoureux et rigoureux sur eh bien, ces gens. Et en apparence, c'était des gens qui étaient hein, qui allaient au temple, qui allaient aux synagogues, qui faisaient énormément de choses. Alors, pour mieux comprendre, mais qui était justement ce monde des pharisiens? Je le rappelle, ils constituaient l'élite parmi les croyants d'Israël. C'était des hommes qui étaient fervents, des observateurs rigoureux et méticuleux de la loi. On les appelait à leur émergence, au moment où ils ont pris un petit peu d'importance, hein, avant naturellement la venue de Jésus, on les appelait les Hasidim. Hasidim qui veut dire les pieux. Et un peu plus tard, ils seront appelés les séparés. Il y avait probablement dans cette notion de séparation une idée d'une pensée de secte, en quelque sorte. Mais qui aurait dit que c'était une secte? Puisque, finalement, ils avaient le haut du pavé, ils étaient partout et en tout. Hein. Alors, c'est ça ce qui peut éventuellement mettre quelque part le doute, parce que les séparés, les pieux, les hasidim, c'était quelque chose de difficile, puisque c'était eux qui tenaient tout, en quelque sorte. Donc, on comprendrait leur... On se souvient de l'interpellation fameuse qui revient, mais nombre de fois, pharisien hypocrite. Et vous savez qui c'est qui l'a dit? Je ne le rappelle pas parce que... Mais pourquoi? Pourquoi cette interpellation? Pourquoi Jésus a-t-il tenu ce langage et a dû faire front, finalement, à ces hommes? Pourtant, c'était de bons israélites, on pourrait le dire. Jésus dénonce chez eux des gens porteurs, et vous verrez que cela donnait un proverbe dans notre langage et certainement dans d'autres langues, porteurs d'un habit qui ne correspond pas à ce qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine. Et vous remarquez, il y a quand même une connotation religieuse derrière, parce que quand on parle de moine, hein, naturellement, l'habit ne fait pas le moine. En réalité, eh bien, leur identité profonde, vue par le Seigneur, c'était une comédie. Donc des comédiens et des acteurs religieux s'arrêtant à la lettre de la loi, au lieu d'en vivre et de vivre de l'esprit. Puisque Jésus est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour lui donner une autre dimension et lui la porter au niveau spirituel. L'Ancien Testament, c'était l'Ancien Testament. Mais si Jésus est venu, c'est qu'il y avait quelque chose de nouveau. Symbolisé par une toute petite parabole du Seigneur, les outres, connaissez, et le vieil habit. Les nouvelles outres, et le vieil habit. Essayez de rapiécer, de rabibocher, finalement, un habit, un vieil habit. Si vous mettez du neuf à un moment donné, ben, vous allez voir que vous allez vous retrouver sur le neuf. Mais l'ancien, il aura disparu. Ça se termine en haillons, hein, en oripeaux de misère. Eh bien, sur le plan moral et sur le plan spirituel, ça peut faire la même chose. Et plus grave encore dans la vigueur de Jésus par rapport à l'encontre de ces gens, c'est qu'il travestissait la vérité divine, et il la connaissait, hein, docteur de la loi, etc. Et cette vérité divine qu'il contrefaisait, avec cela, ils en arrivaient à égarer la foi du peuple. Parce que ces hommes se croyaient d'une autre pâte, d'un autre argile, d'une autre nature, d'une autre dimension religieuse et spirituelle. Et cela a été souligné par un orgueil démesuré. L'attitude de Jésus, lorsqu'il parle dans le temple de ces deux qui viennent, pharisiens et publicains, c'est au clair, hein? On est au clair par rapport à la question. L'un se présente devant en disant « Mais moi je ne suis pas comme le reste des hommes, parce que, Seigneur, vraiment tu peux être fier de moi, hein? Moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je fais ceci, je fais cela, et je fais encore plus. Mais par contre, quand je me tourne et que je vois le pauvre type qui est derrière moi, quel malheureux, comment tu peux permettre qu'il rentre dans le temple ?» C'était un peu cet état d'esprit, naturellement. Et cet orgueil était un orgueil qui était marqué non pas parce qu'ils avaient certainement des situations, ils étaient ceci, ils avaient des positions politiques ou autres, mais c'était un orgueil qui peut être le plus terrible de tous, on le voit dans les conflits qui se préparent ou qui sont en train de se dérouler autour de nous dans le monde, hein, conflits de religion. C'était un orgueil religieux et incurable, nous pouvons dire, incurable. Alors, la question, naturellement, assez désespérante, mais en quoi avaient-ils besoin d'un sauveur, puisqu'ils se sauvaient eux-mêmes? En quoi pouvaient-ils prétendre, finalement, en regardant Jésus, en l'écoutant, en voyant, constatant ses œuvres d'amour et ses paroles de grâce merveilleuses qui descendaient du ciel, en disant, mais nous n'avons pas besoin de ça, nous avons déjà tout. Et ça, c'était gravissime. L'évangile de Jésus, si nous ajoutons, c'est que l'évangile que Jésus prêchait les heurtait, il les offensait et il menaçait leur prestige parce qu'ils se croyaient les maîtres à penser et la conscience d'autrui. Et il régulait la vie. Il disait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Ils interpellaient finalement avec une grande audace, comme s'ils étaient la loi eux-mêmes. Comme s'ils étaient le Seigneur eux-mêmes. Alors qu'on sait très bien ce qu'il nous est dit. Hein. À ce moment-là, à partir du moment où tu juges, tu te fais la loi. Et tu te fais au-dessus de Dieu. Et ils ne le voyaient pas tout cela. Parce qu'ils s'imaginaient qu'ils étaient les yeux éclairés de la nation d'Israël. Et devant cela, eh bien, en fait, et Jésus le dira, qu'ils étaient gravement aveuglés, mais ils s'obstinaient à laisser Dieu les guérir, leur parler, les interpeller, et ils empêchaient surtout le Seigneur d'intervenir et de les délivrer, de les guérir de leur entêtement, de leur entêtement, excusez-moi, entêtement. Parce que Mordicus, pour eux, il n'y avait pas autre chose. Et là, on tombe dans quelque chose d'extrêmement dangereux. On tombe dans une forme d'intégrisme que nous retrouvons dans toutes sortes de sociétés. Et l'intégrisme n'est pas seulement politique, il est aussi religieux. Et ça a été quelque chose de dramatique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des pharisiens qui se sont convertis. Hein. Vous connaissez notre brave Nicodème et Joseph d'Arimathée. Et il y en a eu d'autres, certainement, hein. Mais comment faire entendre à quelqu'un qui est buté, obstiné, obtus? Et nous voyons que, pourtant, à la différence de nous, ils avaient quand même Jésus devant eux. Ouais, mais pour bien le voir, un jour ils l'ont élevé sur une croix, hein, en disant « on ne le verra plus ». Et c'est là où c'est grave. Croyant rendre un culte à Dieu, ils vous mettront à mort. Et Jésus dira « mais c'est parce qu'ils n'ont ni connu le Fils ni le Père ». Et vous savez, nous allons et nous pouvons aller dans une société, dans un monde, et même à travers nos églises, dans cette direction. Moi, j'ai eu à cœur de dire et de reprendre les propos de Jésus pour que nous puissions réfléchir à tout cela. Dans des temps où nous voulons véritablement voir des âmes sauvées, où il y a tant de détresse, Les portes de nos églises doivent être ouvertes, elles ne doivent pas être fermées. Et nos cœurs doivent être ouverts, nos esprits doivent être ouverts et non pas être fermés. Parce que derrière l'esprit des pharisiens, il y a plus que des hommes. Et nous allons le découvrir. Il y a des esprits. Il y a des démons. Il y a des puissances mauvaises. Alors, nous voyons que Jésus met en garde, toujours dans l'évangile de Matthieu, quand il dira, mais deux aveugles, puisqu'ils pensaient être les guides, deux aveugles, un aveugle qui conduit un aveugle, est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans le même trou? Je reviens au verset 11 et 12, dans notre texte de Matthieu, et nous allons voir, donc, c'était, j'en ai même perdu la page, vous m'excuserez, voilà, chapitre 16, excusez-moi. Je reprends. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Et il dira, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens dont il s'agissait. Or, l'état d'esprit religieux de ces hommes, rigoriste et légaliste que Jésus dénonce, perdure encore, et cette mentalité dont nous sommes avertis de sa dangerosité. Je vous ai dit que le levain, c'est quelque chose qui a un pouvoir d'assimilation, de discrétion. Eh bien, nous voyons que tout cela, à travers l'histoire, parce qu'il faut connaître l'histoire du christianisme, c'est que cette mentalité est venue souvent à bout dans l'histoire des églises de la vie de l'esprit. Et nous avons des livres ou des épîtres qui nous en parlent d'une manière très claire. Dans les faits, c'est simplement la négation de la croix libératrice. Et s'il y avait une chose dont les pharisiens craignaient probablement, c'est que la liberté en Christ, ou la liberté de Dieu, le souffle nouveau du Nouveau Testament, allait passer, et qu'à ce moment-là, eh bien, la grâce, le salut, allait véritablement faire une œuvre extraordinaire jusqu'à transformer le monde entier. Enfin, des millions et des millions de gens. Parce que tout cela était englouti justement sous les œuvres à faire. La justification à tout prix par le mérite. Cette notion méritoire qui ramène constamment à la tradition et au formalisme, c'est-à-dire une vision très négative de la vie chrétienne, passéiste et restrictive. Et à ce moment-là, on n'avance plus. Quand on voit dans Marc, chapitre 7, quand il est question du lavement des mains, et puis des ablutions, et puis ceci, mais Jésus va retourner les choses. Il va retourner même les choses jusqu'à ce que ces gens aient pu comprendre que c'était eux-mêmes qui avaient retourné la parole de Dieu. Vous nettoyez l'extérieur. Mais attendez, hein, moi je vous dis, c'est pas l'extérieur qui est mauvais. Vous pouvez toujours astiquer, hein. Vous pouvez toujours prendre n'importe quel détergent. C'est l'intérieur qui doit être changé. Et c'est une mentalité, c'est un entendement. Je dirais même que ce sont des forteresses de l'entendement. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire les choses. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire les choses. C'est l'homme qui fait à la place de Dieu. Et je vous l'ai souvent dit et je le répète, si c'est l'homme qui fait à la place de Dieu, Dieu ne fait pas. Si je laisse le Seigneur le faire, eh bien alors à ce moment-là, moi je me laissais porter dans sa grâce et je m'abandonnais à lui, et je vois le miracle. Je vois un souffle nouveau, une nouvelle vie. Mais tant que je vais y mettre les mains, eh bien, c'est pas possible. Donc, nous voyons que dans l'explication qui va nous être donnée, qui nous est déjà donnée, c'est une forme maladive de la piété. Oui, altération de la piété qui ne peut s'empêcher, alors à ce moment-là, celui qui en est victime, de l'imposer, de l'exiger aux autres pour se donner une bonne conscience. Parce que moi je le fais, alors moi je crois que les autres doivent le faire. Parce que en ce qu'ils font devant moi, parce que je leur ai dit, alors à ce moment-là je me conforte en disant, bien ce que je fais c'est bien. C'est pas comme ça que ça marche. Et toutes les religions, tous les mouvements de cette catégorie, eh bien ont la même façon de procéder. Et ça devient de l'autoritarisme. Parce que ce qui est important, c'est que nous avons à faire l'expérience les uns et les autres de l'autorité de la foi qui nous amène à l'expérience de la foi. Ouais. Et il n'est pas question d'autoritarisme. L'esprit pharisaïque rend malade. Rend malade. Une note personnelle. Quand j'ai découvert l'évangile, je l'ai découvert dans les églises néerlandaises, calvinistes, donc Amsterdam. Au demeurant des gens formidables et merveilleux, c'est vrai, je peux le dire. Mais ils avaient une façon de penser et de vivre les choses extrêmement rigoriste. Quand je dis extrêmement rigoriste, c'était cela. C'était comme ça, il y a 40 ans. C'était comme cela. Et c'est vrai que j'ai vécu comme ça. Ça ne m'a pas empêché de découvrir le Seigneur, je tiens à vous le dire, hein, parce que les premiers éléments de ma conversion, c'était là-bas. Ils m'ont donné de connaître la parole de Dieu, la Bible. Mais quand je suis venu dans les milieux évangéliques, alors à ce moment-là, après un grand conflit d'être passé par le catholicisme, ensuite par le protestantisme, et d'être arrivé justement dans le monde évangélique, je peux vous dire que ça a été un ballon d'oxygène. Parce que c'est vrai que je crois que authentiquement dans ces milieux-là, il y avait Jésus, la foi en Jésus-Christ, enfin comme on peut le trouver dans le protestantisme traditionnel. Je le crois. Et des gens convertis, quoi qu'on en dise. Hein. Attention, il ne faut pas juger trop vite. Mais quand je suis arrivé dans le monde évangélique, ça a été une véritable délivrance. La loi a la foi libératrice. Alors ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et je le répète, ces gens-là m'ont apporté beaucoup. Mais il y avait quand même une privation d'une dimension. Hein. J'avais besoin d'oxygène. Et Dieu m'a conduit justement vers cette dimension eh bien, beaucoup plus libre et beaucoup plus ouverte. Alors je dis que le pharisianisme rend malade, et il est notoire que cela s'observe par le caractère et les fruits qui le trahissent. Et qu'est-ce que c'est que le caractère et les fruits qui le trahissent? Je prends un exemple. Le pharisien, et si vous l'observez bien, c'est pas de la psychologie, mais c'est du regard. Si vous observez bien un pharisien, il oscille toujours entre le découragement, je tiens à le dire, engendré par ses efforts désespérés pour y arriver par lui-même, parce qu'à un moment donné, il a des coups de pompe. Parce qu'il veut, il est plein de volonté. Hein. Il est zélé. Et l'exaltation de ses petites réussites qui se transforment en esprit de domination, et particulièrement sur les autres. Ça, c'est le pharisien type. Et Jésus le savait. C'est quelqu'un, permettez-moi, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui manque d'équilibre dans sa vie spirituelle. Soit il est tout d'un côté, puis à un moment donné, quand il ne peut pas y arriver, eh bien, il s'écroule. Mais le Seigneur nous a appris, et il veut nous éduquer pour que nous ayons une foi constante, que nous ne soyons pas à la fois au grenier ou à la cave. Parce que, justement, dans ces inconstances, eh bien, il finit par éteindre la vie tout en prétendant la stimuler ou la ranimer sous prétexte de revenir ou de maintenir les racines pures de la foi en Dieu, selon lui. Et vous savez que c'est quelque chose de difficile à vivre. On était appelé à vivre dans la paix. On était à vivre dans la communion avec le Seigneur. Et si nous commençons à regarder nos états d'âme et nos sentiments et nos fluctuations, on n'est pas sorti, mes frères et sœurs. À celui qui est ferme dans ses sentiments, et je le répète deux fois parce que c'est marqué deux fois, Ésaïe chapitre 26, je connais un petit peu ma Bible, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et ça, c'est le bien le plus précieux qu'un chrétien puisse avoir et disposer, la paix en Jésus-Christ. Il y a un homme choisi par Dieu, et ce n'est pas le fait du hasard que Dieu l'ait choisi, et qui sait bien nous parler de tout ça. Vous savez comment il s'appelle? Il a écrit 13 épîtres. Il s'appelait Saul de Tarse, et il est devenu Paul. Alors on va l'écouter, notre brave Paul, parce qu'il a des enseignements, il peut nous en parler. Quand on est sorti de quelque chose, quand on a vécu pendant des années au pied de Gamaliel, quand on a vécu ce qu'il a vécu, après on sait de quoi parler. Trop souvent, quelquefois, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons que chez les autres. Et quelquefois, on ferait mieux d'être beaucoup plus modéré. Je sais, je ne sais rien, parce que vous savez, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la foi de l'expérience qui est importante. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'ait appelé. Donc, Galates, chapitre 1er, versets 11 et 13, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Paul écrit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Avant, son judaïsme était de l'homme. Enfin, il y avait une part de, naturellement, de la parole de Dieu, mais il était de l'homme aussi. « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, merci Seigneur, mais par une révélation de Jésus-Christ, au fond de son cœur. Et nous, nous sommes des hommes de la révélation. Nous marchons parce que le Seigneur nous a révélés par son esprit. Vous avez vu, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravager l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Eh oui. Voilà comment il parle de sa vie avant, de sa vie religieuse avant. Et allez dire à Paul qu'il n'était pas un juif. Allez vous envoyer faire un petit tour dans les cachots. Hein. Allez lui dire que vous aviez cru à la nouvelle religion que l'on appelle le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ. Pareil, hein. Écoutez, ma conduite, je persécutais, je ravageais, voilà comment j'étais avant. Et j'étais animé d'un zèle excessif. Voilà, Paul. Et puis un jour, parce qu'il y a toujours un jour où Dieu nous fait grâce. Il ne fait pas grâce parce que nous avons mérité, parce que nous sommes un bon garçon, une bonne fille, mais il nous fait grâce parce qu'il nous aime. Alors, un jour, il a compris. Il a même tout compris. Et vous savez comment il a compris ? Parce qu'il a cessé de résister. Et vous connaissez l'histoire, là ? 3 jours dans le noir, les yeux fermés, et puis se laisser emmener par la main par un homme qu'il était venu justement mettre en prison. Et voilà que, là, il a compris. Et il a compris parce qu'il a abdiqué. Il a compris que, en tombant de son cheval, eh bien, il devait tout simplement reconnaître que le Seigneur se révélait à lui. Et il lui dira, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Vous vous rendez compte ? Un garçon qui avait enseigné aux autres à connaître Dieu, et il va dire, « Mais qui es-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» La résistance. Et je crois que s'il y a quelque chose qui caractérise l'esprit religieux, l'esprit pharisien, c'est de résister. Et on ne résiste pas aux hommes, on résiste au Seigneur et à l'Esprit de Dieu. Je poursuis dans notre petite étude, toujours dans Galates, au chapitre 2, et au verset 15 à 19, voilà ce qu'il nous est dit. Nous sommes juifs de naissance, il parle pour lui, et non pécheurs d'entre les païens. Mais il est quand même pécheur juif. Quoi qu'il en soit, parce que juifs ou les autres, ils sont pécheurs. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions ainsi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Car si je rétablis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Et un peu plus loin à la fin, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort donc en vain. C'est tout le fondement de l'évangile, mes frères et sœurs. Eh oui, ce n'est pas par les œuvres de la loi, justifié par la foi. On est justifié par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Justifié par Christ, je reprends quelques éléments. Et si je rebâtis ce que j'ai détruit, alors je me trouve en transgresseur. On ne peut pas vivre dans l'Ancien Testament et vivre dans le Nouveau Testament. On est passé de l'Ancien Testament avec toutes les bonnes choses qu'il peut y avoir, qui sont encore la parole de Dieu, mais nous vivons pleinement maintenant l'esprit chrétien, donc l'esprit de Christ. Et dans l'esprit, non plus dans la lettre, mais dans la dimension spirituelle. Et ça, il faut qu'on en soit convaincu. La parole est là pour nous aider, mais l'esprit est là aussi pour nous en convaincre. quand on voit qu'il y a encore tant de batailles, tant de conflits, tant de dualités à l'intérieur du cœur des chrétiens, je me dis, mais Seigneur, Seigneur, nous voulons aller plus loin. Donne-nous d'aller plus loin et de nous réjouir et de nous émerveiller de ce que tu as fait. Parce qu'il y aura toujours un voile. C'était les ombres des choses à venir. Nous sommes maintenant dans les choses qui sont venues depuis que Christ est arrivé. Alors si je dis, eh bien je rebâtis à ce moment-là, eh bien je ne peux pas avancer, ça c'est sûr. Parce que la justice s'obtient par la... Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort, donc en vain. Et à ce moment-là, c'est comme si je disais, mais Christ, ce n'était pas la peine de mourir, hein, puisque de toute façon je peux me sauver moi-même. Parce que si Christ est mort, c'est qu'on ne pouvait pas se sauver soi, nous-mêmes. Il n'y avait rien à faire. Ce n'est pas possible. Paul a lutté contre l'esprit judaïsant. Alors, ça va naturellement pour son temps, mais ça va aussi pour nous. Il a lutté contre l'esprit judaïsant. Sa vie durant et ses lettres sont remplies de mise en garde contre ce redoutable danger qui menaçait et qui menace encore, malgré que nous soyons avertis depuis 2000 ans. Combat à mort, livré contre une loi implacable qui exploite à fond les penchants naturels de l'âme humaine, mais ça nous le savons. Illusion funeste de se croire seul détenteur de la vérité, puisque nous l'avons lu tout à l'heure, hein, il est dit, mais voilà ma conduite, hein, je persécutais, je ravageais, et j'étais animé d'un zèle excessif. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu que sa religion était la meilleure, ce qu'il pensait, ce qu'il croyait de Dieu, et c'était le meilleur, et les autres, out. Où l'intégrisme religieux refuse la main d'association et de reconnaissance à ceux et de tous ceux qui ne partagent pas les mêmes idées et se fait juge de ce qui ne lui ressemble pas. Tout le problème est là. Alors c'est vrai que j'irai certainement pas frayer avec n'importe qui et n'importe comment. Nous avons une famille. C'est celle dans laquelle nous avons grandi, nous nous sommes développés spirituellement. Mais je ne veux pas de là penser que je suis le seul, que ma communauté, que mon mouvement, que je suis le seul à être dans la vérité. Il faut voyager, hein. Enfin façon de parler, mais il faut s'ouvrir. Parce qu'à ce moment-là, on va devenir une secte, tout simplement. Et c'est bien ce dont on se défend et dont on ne voudrait pas qu'on nous dise. Alors, je crois qu'il faut bien concevoir les choses. Il faut bien regarder les choses. Le pharisaïsme d'hier s'appelle aujourd'hui le fondamentalisme radical de nos jours. Paul, l'homme de Dieu et de l'Esprit, aura ces mots. Et ils sont intéressants parce que il ne l'a pas écrit qu'aux Galates. Écoutez bien, et ça peut être quelque chose qui peut nous sont susceptibles de nous faire avancer, dans Romains chapitre 6, versets tout simplement 1 à 10. Alors, chapitre 6. Est-ce que j'ai pris la bonne référence ? Oui. Il est dit ceci. Paul parle du péché. Il parle de la corruption. Il parle de ce que nous étions encore hier. Mais à partir du verset 22, il dit ceci. Mais maintenant, donc il y a une transition. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et ça, je trouve que c'est bien dit. Affranchi du péché par la repentance, la conversion, donc le choix que nous avons fait de Jésus-Christ et la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Et nous sommes devenus esclaves. Il y a comme quelque part comme une inversion parce que affranchis d'un état et nous sommes devenus maintenant dépendants ou soumis, subordonnés de Dieu. Mais dans un sens particulier, c'est que vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Eh oui. Je crois que derrière tout ça, il y a tout un message qui nous est donné. Si nous restons dans cet état d'esprit de fermeture, dont il est parlé d'un zèle sans intelligence, mais ce n'est pas un zèle, ce n'est pas une question d'intelligence humaine, le manque d'intelligence de l'esprit, qui ne fait qu'aboutir à une désintégration du corps de Christ, parce qu'à cause d'une fermeture, nous fracturons cette famille que Dieu nous a donnée, par des jugements, par l'arbitraire, par des divisions, par toutes sortes de choses qui confondent l'esprit et la conscience finalement des enfants de Dieu. Et pour arrêter le dynamisme joyeux et le mouvement de la liberté de la vie dans l'esprit, regardez encore dans Galates au chapitre 3 verset 1er, il nous est donné cette parole et il s'adressera justement dans cette fermeture. Il dira aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, qui a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Question, hein. Êtes-vous tellement dépourvé de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Où en sommes-nous rendus? Et l'apôtre provoque quelque part les Galates, hein, parce que ils avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Et tout l'épître est là justement pour traiter ce problème de marche arrière, de rétrogradage. Ah, ils n'étaient pas rétrogrades comme on l'entend, mais sur le plan de la doctrine, sur le plan de la compréhension, sur le plan de la vie, sur le plan de la liberté, sur le plan de cette dimension spirituelle, ils l'étaient. Alors il va leur poser, mais est-ce que c'est par les œuvres de la loi, ou est-ce que tout simplement par la prédication de la foi, mais la foi qui libère, la foi qui éclaire, la foi qui donne la connaissance, la vraie, saine connaissance. Alors, il dira, mais est-ce que Dieu le fait par les œuvres de la loi, ou est-ce que c'est par la prédication de la foi? Ils avaient besoin de le réentendre. Parce que quelquefois, dans un premier mouvement de conversion, on découvre des choses formidables, merveilleuses, on touche le miracle, on touche l'extraordinaire. C'est l'émerveillement de la présence de Dieu et de la communion avec Dieu. Puis tout à coup, je ne sais pas pour quelle raison, soit parce que bon, il y a un enseignement, ou soit parce qu'on a lu des bouquins qui, quelquefois, eh bien, nous disent, voilà, ceci et cela. Et là, d'un seul coup, on voit qu'il y a comme une retombée, et les gens retournent, finalement, sous une férule. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à perdre leur joie, ils commencent à perdre leur enthousiasme, ils commencent à perdre leur dynamisme. C'est terrible cela. C'est terrible. C'est le danger permanent du retour en arrière et la mise en cause, c'est le levain des pharisiens, comme nous l'avons lu. Levain des pharisiens, toujours dans Galates au chapitre 2 et au verset 4, il est dit à un moment donné, autour de cette question, et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors il y a une liberté qui peut nous conduire dans le mal et qui doit être sanctionnée, je ne dis pas le contraire, qui doit être en tous les cas sanctionnée avec toute le doigté et la compréhension fraternelle pour relever celui qui pêche, d'accord ? Reprenez avec douceur celui qui pêche, on est d'accord. Mais il y a aussi une liberté qui nous est acquise par le Saint-Esprit, qui appartient à nos vies personnelles, qui appartient à nos couples, qui appartient à nos familles, qui appartient à notre manière de vivre les choses indifférentes que Dieu nous a données, dans un domaine ou dans un autre, et que Dieu nous a données, que nous avons, et nous, dans lequel nous pouvons remercier le Seigneur. Mais il y avait des gens qui épiaient l'apôtre Paul et puis ses compagnons pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous affermir en disant « Ce que vous faites, c'est pas bien. Ce que nous croyons que vous devez faire, c'est cela. » Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Vous vous rendez compte un peu le challenge? Vous rendez compte le combat? Et l'enjeu surtout, nous leur résistâmes à leur exigence, afin que la vérité, c'est pas pour que je sois blessé, vexé, contrarié, parce qu'on est en train de me stigmatiser dans une liberté qui m'est permise par le Seigneur et dans la grâce de Dieu et je le vis dans la foi, mais à cause de la vérité, pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Parce que même l'Évangile peut être altéré. par des choses qui semblent de l'Évangile, mais qui ne sont plus de l'Évangile, qui semblent de l'Esprit, mais qui ne sont plus dans l'Esprit, où l'on parle de liberté, mais il n'y a plus de liberté. Donc, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, la loi asservie, tandis que la foi et la grâce affranchissent, et vous avez remarqué quelle vigoureuse réaction de Paul, nous leur résistâmes. Pas pour lui, mais pour que l'évangile qu'il avait reçu par révélation, eh bien, continue et fasse encore des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ, et non pas des asservis à une religion, des traditions, des théologies, et puis des commandements d'hommes. Il en va de la survie de la vérité évangélique. Vous savez, le monde, hein, il attend cette vérité évangélique qui libère. Hein. Parce que je peux vous dire, des chaînes, il y en a des tonnes et des tonnes. Et si on présente un évangile qui les renferme, ben vous allez voir. Ben c'est bien pour ça que ça... Parce que bon, il y a une idée générale, hein, je ne parle pas pour Saint-Nazaire, hein. Ingénieur général du christianisme et du jugement du fait religieux autour de nous. Ils se disent, ben si c'est pour ceci et cela, ben les gens ils préfèrent rester encore dans leur péché, dans leur misère et dans leur perdition. La conclusion. La loi ou la foi? La condamnation ou la grâce? Et je rappellerai à ce titre, Romains chapitre 8, verset 1er, quand il nous est dit, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, vous vous imprégnez de ce message. Vous vous imprégnez de ce message de Paul quand il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ ou vous ne l'êtes pas. Vous le vivez dans la foi ou non. L'esclavage ou la liberté. La conclusion autour de trois éléments. Excusez-moi. La sainteté. La sainteté... On retourne en Romains, quand il nous dit ceci. Romains chapitre 6, verset 22, j'ai déjà lu le texte. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La servitude du péché ne fait que des misérables, ça. On ne revient pas sur la question. La servitude de Dieu, puisqu'il est question d'être esclave de Dieu, la servitude de Dieu ne fait que des saints. Et j'ajoute, écoutez bien parce que c'est une nuance, entre le mot sainteté et sanctification. La servitude de Dieu, qui est une liberté en Dieu, qui est mon affranchissement en Dieu, fait des croyants, des saints, et j'ajoute, dans le temps. Dans le temps, et elle fait de nous des rois pour l'éternité. Vous avez pour fin la vie éternelle. Donc notre destination, c'est la gloire dans le royaume de notre Père, mais ce qui produit un fruit, c'est un fruit qui va aboutir à la sainteté. Mais je dis, cela fait de nous des saints, mais dans le temps. Bon, je suis ce que je suis. Je prie le Seigneur et je dis, Seigneur, tu me donnes la sainteté. Demain matin, je me réveille, je suis saint. Vous croyez que ça marche comme ça? Et ce n'est pas parce que vous allez le répéter 100 fois, 1000 fois, que vous allez proclamer dans votre vie, que dans l'instant ou dans les jours ou ceci et cela, vous allez tomber dans la sainteté parfaite. Je dis bien, il fait de nous des saints dans le temps. Et permettez-moi d'ajouter, nous n'aurons pas assez d'une vie pour véritablement atteindre. Mais c'est le Seigneur qui fera les choses, hein, c'est pas moi. Hein. C'est le Seigneur qui fera les temps. Aspirez aux choses d'en haut. Ah ben c'est ça. La sainteté, écoutez bien la définition. La sainteté est l'état de perfection dans lequel nous tendons et nous sommes appelés dans ce mouvement de l'esprit à aller vers le Seigneur. On est d'accord, c'est un état de perfection et nous soupirons, nous aspirons à cela. La sanctification est le processus sur lequel s'opère en nous la transformation à l'image de Christ, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout notre être et dont le but est de porter le fruit de sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. on est tranquille, hein. Plus de combats, plus difficile, plus de difficultés, plus de dualité. C'est pas comme ça que ça se passe dans notre vie, hein. Pas comme ça. Il y a toujours cette dualité, ce combat, pour choisir en permanence entre le bien et le mal, entre ceci et cela, entre le pur et l'impur. Mais le Seigneur, il est en train de faire le travail par la sanctification pour arriver à la sainteté. C'est le seul moyen d'y parvenir. Seul moyen d'y parvenir. Et vous savez, ça sera seulement la foi dans sa grâce qui va permettre d'activer la sanctification. Oui, il y a des fois ça va bien, et il y a des fois ça va très très mal. Nous péchons, nous faisons des choses que notre conscience et le Saint-Esprit nous reprochent. Alors je reviens vers ce Seigneur. Et je sais ce que j'allais à lui dire à ce moment-là, parce que bon, j'ai très bien mon état. Et je le prends dans la foi, dans sa grâce et dans ce qu'il a accompli en lieu et place pour moi, parce que moi je ne peux pas y arriver. Si je me place sur la loi, ben la loi va me dire beaucoup de choses. Et là, je peux vous dire que je vais certainement faire du surplace. Parce que si j'essaie de regagner par les principes et les préceptes de la loi, je vais être renvoyé complètement à ma misère, à ma culpabilité. Et il y en a un qui va se servir de ça pour me décourager, pour me démoraliser, pour me dire toutes sortes de choses en disant, mais tu sais, entre parenthèses, hein, avec ce que tu viens de faire, avec ce que tu viens de penser, mais le Seigneur, il entend qu'il t'a exclu, hein, t'es un damné, t'es perdu. Hein. Ben moi, ce langage-là, je ne veux pas l'écouter. Moi, je crois que le Seigneur, et dans la foi que j'ai dans sa grâce et dans son amour, et malgré mes fautes, parce que je les reconnais, alors à ce moment-là, je reviens vers toi, Seigneur, et je dis, mais vraiment, je me sens vraiment pas bien, parce que ça vous arrive de vous sentir pas bien quelquefois. Je me sens vraiment pas bien, mais je crois que tu es encore celui qui... Eh bien, tu demeures celui qui a été au commencement. Tu es mon sauveur, encore une fois de plus. Tu es encore mon sauveur, et tu le seras jusqu'à la fin, parce que ça m'étonnerait que quand même, ça soit vraiment très linéaire hein, jusqu'au bout. Hein. Seigneur, tu m'aides, hein. Tu me fais grâce, et je crois dans cette grâce, dans cette foi divine, et ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Vous m'excuserez, si je me place sur la loi, elle va me pulvériser, cette loi. Et je serai encore malheureux. Que d'état d'âme, que de fluctuations, que de haut et de bas. Seigneur, tu m'as appelé à vivre en paix, hein, dans la foi. Alors, dans Galates, puisqu'il est question justement de tout cela, dans Galates chapitre 5 et verset 7, 5 à 9, pardon, 5 à 9, il est dit cette parole, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Cette justice qui vient de Dieu, c'est lui qui me justifie, ce n'est pas autre chose. Et nous l'attendons par l'Esprit, dans l'espérance. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Tout simplement, uniquement par l'amour. Vous courriez bien, dira Paul aux Galates. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous a appelé, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Hein. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Eh bien, que Dieu, véritablement, nous donne de ne pas penser autrement que ce que Paul est en train de nous écrire. Ouais. Nous attendons cette justice. Parce qu'on peut être circoncis, et puis finalement, extérieurement, mais vous savez, la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Je n'ai rien inventé. Alors Paul est désespéré, enfin désespéré, façon de parler, en tous les cas, il aurait écrit pour que ça aille dans le bon sens. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que la vérité, elle est dans la grâce et dans la foi. Elle n'est pas dans autre chose. Elle peut être dans la loi, naturellement, je ne veux pas dire le contraire. Mais il n'y a plus de dynamisme dans la loi. C'est un dynamisme de mort qui me ramène en arrière. Le dynamisme de la grâce et de la foi, elle me pousse en avant. Cette influence, eh bien, parce qu'un peu de levain, c'était ça justement l'enseignement des pharisiens. Ah oui, mais attendez, vous croyez en votre Christ, vous croyez dans l'Évangile, mais c'est trop facile de croire dans quelqu'un qui est mort sur une croix et qui a tout accompli pour vous. Mais attendez, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Au juif, il dira, mais si vous n'êtes pas circoncis, parce que il faut quand même que, il y avait quand même la courette, excusez-moi, entre Paul et puis les judaïsants qui le talonnaient, parce que quand Paul commençait à mettre une église en place, les autres arrivaient derrière en disant, bah, pff, Paul, vous tracassez pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir que vous fassiez ceci, vous revenez au commandement, vous revenez dans l'Ancien Testament, vous faites ceci et cela, et puis Dieu va vous agréer. Alors, vous vous rendez compte, les consciences et les tiraillements et toutes sortes de choses, ils ne savaient plus où ils en étaient rendus. Et Paul leur écrit, finalement, l'épître, pour leur dire, mais voilà, attendez, un peu de levain fait lever toute la pâte. Attention à ce que vous écoutez, et ce que surtout vous allez croire. Alors, Paul l'explique à la manière, à travers ce verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Romains, il l'explique en quelque sorte à la manière d'un artiste qui peint une belle fleur, hein, on peut se le représenter, qu'il place sur un fond sombre. Vous avez été affranchi du péché. Voilà, donc le fond sombre, c'est le péché. Mais vous en êtes sorti. Vous avez décollé de ce fond sombre pour mieux en faire ressortir tout son éclat et sa fraîcheur. Vous êtes maintenant devenus des esclaves de Dieu. C'est ça, le mot esclave est peut-être très fort, mais vous êtes devenus des hommes libres en Dieu. Donc le fond, pour montrer que devant, il y a quelque chose de très lumineux, parce que nous appartenons au Seigneur, et que maintenant, eh bien, nous avons pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, c'est pas beau ça? C'est ça. Et de pouvoir permettre aux gens qui lisent ce texte de Romains, chapitre 6, de pouvoir s'affranchir du légalisme oppressant et être toujours renouvelés par la grâce qui nous a été faite par cette affirmation que Dieu a tout accompli parfaitement à la croix du Calvaire. Tout est accompli, tout simplement. Tout simplement. Dans Jean, encore une citation, au chapitre 17... Tout ça, ça s'étaye hein, quelque part, hein, que Dieu nous donne de le comprendre hein, et de recevoir avec douceur la parole qui doit être plantée en nous, parce que finalement, elle est notre salut. Hein. Je rappelle ce que Jean dit, de toute façon, de la recevoir avec douceur, même si quelquefois ça peut irriter, parce que bon, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que le Seigneur nous dit. Quand il est dit au chapitre 17, écoutez, Jésus, avant de mourir, il dit à son Père, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ah, c'est Jésus qui l'accomplit. Et parce que je suis dans la vérité, je vais prendre cette vérité, je vais la saisir dans mon cœur, je vais l'interpeller, elle va m'interpeller et je vais la laisser agir par le Saint-Esprit. Et elle me conduira à la liberté, à mon affranchissement et à cette dimension. Donc on a parlé de la sainteté. En deux mots, des activités censées plaire à Dieu. Il y a bien des choses que nous faisons et quelquefois qui ne sont pas, que nous pourrions appeler des œuvres pieuses. Dans Galates, chapitre 5, encore, au chapitre 5 et au verset 2 et 4. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés, là les paroles sont terribles, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous rendez compte? Vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est terrible ce qu'il explique. La circoncision, qui est un rite d'appartenance, c'est simplement de vouloir le faire pour satisfaire quelque chose que nous croyons être bien, mais qui n'est plus, qui est obsolète. C'est se rejeter soi-même en dehors et annuler le sacrifice expiatoire de Jésus. C'est une forme de notre part de mépris et de déchéance. Et c'est ce que je crois... La parole de Dieu nous dit, ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. À propos de la liberté maintenant, brièvement. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre sous le joug, de nouveau sous le joug de la servitude. L'avertissement porte sur le danger toujours présent, de se faire voler notre liberté. Cette liberté que nous avons... qui a été acquise si chèrement par Jésus au prix de sa vie. Ce n'est pas nous qui avons donné notre vie pour être sauvés. Nous, on allait vers la mort. Et lui, il a donné sa vie pour mourir, pour que nous puissions de sa mort vivre. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. La nouvelle alliance remplace l'ancienne, car on ne peut être à la fois esclave et libre. Quelle position j'ai? Je suis entre les deux? Non, je ne peux pas être entre les deux. Soit je suis un esclave, ou alors je suis un homme libre. Et si je suis un homme libre, eh bien toutes les caractéristiques de la liberté vont se manifester. Dans tous les domaines de ma vie. et y consentir à retourner en arrière, à se faire circoncire. Bon, admettons, c'est simplement une image. Hein. C'est retomber sous le joug du légalisme, donc de la servilité. Parce que si j'en fais un, j'en ferai deux, j'en ferai trois, j'en ferai quatre. Et je me dirai, je vais régler ma vie tous les jours, tous les jours de ma vie, finalement avec des règles, des règles, des règles, des règles. Précepte sur précepte et règle sur règle. Alors que je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Christ. Enfin, à propos de la vérité, mais à une condition, et là vous allez voir que c'est quand même très important parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore, et qui change toute la nature de notre approche et de notre compréhension de Dieu. Je dis bien à propos de la vérité, et à cette condition d'aimer. Vous n'avez pas parlé encore, hein ? Ça, il y a deux, le devoir ou l'amour, hein ? À condition d'aimer, c'est-à-dire la charité. Et cela, à travers le verset 5, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Et là, ça change tout radicalement. Le grand secret et la grande révélation de Dieu, c'est l'amour. Parce que l'amour, ça rend capable. Ce que je ne peux pas faire, l'amour le fait. L'esprit pharisaïque n'aime pas. Il n'aime pas. Il peut être avoir des apparences ou des propos, mais il n'aime pas. Il est, au regard de ce que nous en dit dans l'Écriture sainte, il est brutal, il est exigeant, il est cassant. Il juge et il condamne sans appel, ni recul de réflexion compatissante. C'est l'arbitraire. Mais vous avez remarqué, nous attendons par l'esprit et non par la chair. Nous attendons par la foi et non par les œuvres. Nous attendons par la grâce et non par notre justice et par nos propres efforts. Nous attendons l'espérance de la justice, c'est-à-dire celle de Dieu, la sienne, qui atteste la véracité de ce que Dieu nous enseigne. Dans sa parole, dans le Nouveau Testament, illuminé par le Saint-Esprit, qu'il a accompli en lieu et place pour nous tout ce que nous ne pouvions pas faire. Et dont la loi nous ramène, finalement, à l'exécution. Et comme les choses ont été réalisées, je crois ou je ne crois pas. C'est une question de foi ou d'amour, hein, tout simplement. À la foi et à l'espérance s'ajoute l'amour dans notre texte. Indice certain, je parle de l'amour, indice certain qui permet de reconnaître la vraie foi qui est celle du cœur, pas celle de la bouche, qui nous parle et qui nous atteste de la charité infinie. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, vous savez où il est dit l'amour, 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 ceci. Une charité gratuite, une charité qui est prompte à pardonner, qui relève et compatit et sauve inconditionnellement et qui nous ouvre de telle façon, de telle manière, qu'on ne peut aimer Dieu et autrui comme nous avons été nous-mêmes aimés. La boucle est bouclée à ce moment-là. Et je termine. Dans Luc chapitre 12, verset 1er, c'est le corollaire de ce que nous avons lu dans Matthieu tout à l'heure, quand il était parlé du levain. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, en priorité, donnez la prééminence, supérieure à tout le reste, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Et quand vous regardez le contexte, parce que quand même, quand on fait une étude, il faut regarder un petit peu devant et derrière, voir un petit peu ce qui se passe. Et quand vous regardez le contexte où Jésus dit ça dans Luc chapitre 12 verset 1er, vous verrez que Jésus vient de faire au chapitre précédent un réquisitoire contre les pharisiens. Et ils étaient prêts à le lyncher. Ils étaient prêts à le mettre à mort. Alors là, c'est pas l'amour, hein. Imaginez-vous, quand je vous ai dit que Jésus était embarrassant, qu'il ennuyait les gens, mais il avait fait tout simplement voler la fourmilière, il avait donné un coup de pied là-dedans. Et puis les autres, ils n'étaient pas contents, mais pas contents du tout, puisque regardez, quand verset chapitre 11, verset 53, avant de lire le verset 12, premier, Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, et lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche sur ses entrefaites. Les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, et c'est pour nous ce matin, hein, à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, je crois que l'Église va avancer, l'Église va bouger. Mais elle bougera que lorsque nous aurons un cœur qui sera en conformité avec cette dimension de l'esprit. Alors, on dit oui, on dit non. Moi, je sais que personnellement, je dis oui. Maintenant, chacun fait avec sa conscience et avec ce qu'il a entendu. Mais une chose qui est certaine, c'est que je préfère vivre sous la grâce que de vivre sous la loi. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Et moi, je vous invite à véritablement rentrer dans cette dimension de la grâce de Dieu. Et de le vivre pleinement. Mais n'oubliez pas, ça ne peut se vivre que dans la mesure où nous sommes remplis de cet amour de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai qu'il y a un levain, Seigneur, qui fait gonfler. Un levain qui, soi-disant, Seigneur, eh bien là, permet de pouvoir fermenter, mais quelle fermentation voulons-nous ? Moi, nous voulons croire, Père éternel, que Seigneur, il y a une saine fermentation, Seigneur, c'est ta parole, dans l'esprit de la grâce, dans l'esprit de l'Évangile. Alors à ce moment-là, Seigneur, nous sommes le nouveau levain, un levain qui parle à la gloire de Dieu, qui témoigne à la gloire de Dieu, avec tous les fruits, Seigneur, non pas des fruits de recroquevillement, des fruits de mécontentement, d'aigreur, de tristesse, hein, d'apesantissement, de dépression ou autre chose, mais des fruits de joie, d'allégresse, d'enthousiasme, des fruits qui donnent envie, parce que nous n'oublions pas que nous sommes le sel et que nous sommes aussi la lumière. Alors nous voulons te rendre grâce, tu bénis maintenant ta parole, parce que nous savons, Seigneur, que cette parole, elle doit être reçue avec douceur dans nos cœurs, non pas parce que c'est un homme qui l'a donnée. Tout ça, ça reste très relatif. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est l'enseignement autour de ta parole qui nous est confirmé, éclairé par le Saint-Esprit, les uns et les autres. Seigneur, nous sommes en marche, nous sommes en route. Et nous croyons, Père, que tu veux continuer à faire ton œuvre de sanctification dans chacun d'entre nous. Alors merci, Seigneur, bénis ton peuple. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, qu'il n'y a qu'un chemin, c'est le tien, qu'une vérité, c'est la tienne, et que la vie qui doit véritablement y aboutir, c'est une vie de plénitude, une vie de gloire, une vie véritablement de sainteté. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.